Vous êtes à l'écoute de l'émission Parole au présent. C'est Claude Julien qui vous parle. Mon invité, c'est Francine Robert. Francine, dans ce tout début de l'Évangile de Marc, c'est quand même un peu remarquable parce que dès le deuxième verset, Marc nous aligne sur le prophète Isaïe, ainsi qu'il est écrit dans le livre du prophète Isaïe.
Oui.
C'est une décision plutôt originale pour le début d'un livre.
Hein? Très originale, surtout que dans ce texte d'Isaïe, qui est un bon choix aussi au lectionnaire, puisqu'il sera notre première lecture de ce dimanche.
Ah ben oui, faut-il le rappeler? Oui. Vous avez raison, oui. C'est important que c'est ce texte d'Isaïe qui est le début du second livre d'Isaïe, a été choisi en fonction donc de l'Évangile oui. et sera proclamé dans les églises en fin de semaine.
Oui, de sorte que nous le commenterons aussi dès maintenant. Pour revenir simplement sur cet acte de l'Évangile de Marc, il choisit un passage d'Isaïe qui contient, non pas dans la phrase citée, mais tout près, aussi qui contient le vocabulaire de l'Évangile, hein, de l'euagelion, c'est-à-dire, plus précisément, du porteur de bonnes nouvelles. C'est le verbe que nous aurons au verset 9 de cette lecture d'Isaïe que vous allez nous faire tout à l'heure. Et moi, je trouve que ce que ça m'inspire, en tout cas, comme réflexion, c'est que c'est un auteur qui est très, qui fait preuve d'une grande modestie face à l'objet dont il traite dans son livre, en nous disant, voici, mon livre, c'est le commencement de l'Évangile, mais qui enchaîne tout de suite avec, il était déjà écrit, cet Évangile, d'une certaine manière, il y a de l'Évangile qui m'a précédé, et c'est dans le livre d'Isaïe. Et c'est comme si Marc nous dit, la bonne nouvelle, je vous en parle dans mon livre, mais elle ne peut pas être enfermée à l'intérieur des limites de ce livre. Elle s'inscrit dans une histoire qui a commencé bien avant moi, bien avant Jésus, et qui va se continuer bien après moi et jusqu'à vous. Donc, il y a une sorte d'éclatement du livre.
Et justement, ce texte que Marc a choisi est un texte clé dans le judaïsme.
Oui.
C'est la fin de l'exil, hein, ce terrible exil à Babylone où l'on croyait que tout était fini. Et par décret, le chef politique qui s'est imposé, là, Cyrus, a demandé aux Juifs quoi de retourner en terre promise.
Oui.
Et pour Isaïe, c'est une radicale nouveauté. Hein. C'est la recréation du peuple juif.
On pourrait le dire, oui.
Juif,
et
quoi.
C'est d'ailleurs, il va utiliser pour la même raison des images de l'Exode. Hein. C'est un nouvel Exode. C'est une nouvelle traversée du désert. L'aspect très prononcé de consolation dans le livre, c'est sûr, fait que le texte est fait pour être entendu avant que le salut soit produit. C'est-à-dire, il est fait pour être adressé à des gens qui sont découragés.
Oui.
Et à qui on doit dire, non, Dieu ne vous a pas abandonné, contrairement à ce que vous le croyez à cause de cet exil où on a perdu tous les repères traditionnels, on a perdu le roi dynastie davidique, on a perdu la capitale Jérusalem, on a perdu le temple de Jérusalem, donc Dieu nous a-t-il abandonné? On voit que ce livre des consolations est écrit, en tout cas pour être lu du point de vue de quelqu'un qui n'a aucune raison d'espérer.
Alors, pour situer les personnes qui nous écoutent, ce fameux exil, qui est un événement effrayant dans l'histoire d'Israël, ils ont cru que c'était pratiquement la fin de leur histoire.
Oui.
Pour le situer, c'est 587.
Oui, la deuxième vague de déportation.
C'est une véritable déportation.
Oui,
là, c'est pas de la littérature.
Non, les gens sont déportés à Babylone.
Et ça a duré une cinquantaine d'années, donc le temps d'une génération.
Oui, oui. C'est une époque que... On pourrait qualifier, l'expression n'est pas de moi, mais je la trouve très belle, c'est pour les gens, c'est une époque d'éclipse de Dieu.
Oui, l'époque
de l'exil. L'exil,
oui, parce qu'on croyait que, enfin, juste titre d'ailleurs, que le temple symbolisait la présence de Dieu au milieu de son peuple. Or, le temple a été complètement démoli.
C'est ça.
Ils sont arrachés de cette terre promise, oui, de leur appartient
plus. Et puis, ça pourrait vouloir dire que Dieu est moins fort que les dieux de Babylone,
voilà,
puisque c'est comme ça qu'on voyait les choses à l'époque. Ouais. Donc, le peuple vaincu, ça signifie que son Dieu est aussi vaincu.
Ça.
Alors, ça ébranle
le Dieu d'Israël est vaincu.
Ça,
voilà,
ébranle les fondements même de la foi. Et il y a quelque chose qui est un scandale. Alors, Claude, ce serait intéressant que vous nous fassiez la lecture de ce passage d'Isaïe duquel Marc s'est inspiré pour notre évangile. C'est la première lecture au lectionnaire de ce dimanche.
Et rappelons que c'est le chapitre 40 et que ce second Isaïe, en fait, c'est pratiquement un livre qui commence au chapitre 40 et qui se termine au chapitre 55. Et là, c'est le début de ce livre d'Isaïe qu'on appelle le second Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et proclamez que son service est accompli, que son crime est pardonné, et qu'elle a reçu de la main du Seigneur double punition pour toutes ses fautes. Une voix proclame : Préparez à travers le désert le chemin du Seigneur, tracez dans les terres arides une route aplanie pour notre Dieu. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits et les escarpements seront changés en plaine. Alors la gloire du Seigneur se révélera et tous en même temps verront que la bouche du Seigneur a parlé. Quant à toi, monte sur une haute montagne, Sion, joyeuse messagère, élève avec énergie ta voix. Jérusalem, joyeuse messagère, élève-la, ne crains pas, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu, avec vigueur il vient et son bras est victorieux. Le fruit de sa victoire l'accompagne et ses trophées le précèdent. Comme un berger, il conduit son troupeau, son bras rassemble les agneaux. Il les porte sur son cœur et il prend soin des brebis qui allaitent leurs petits.
C'est un texte magnifique, Claude, et on voit bien qu'il propose l'espérance à un peuple découragé. Il lui propose finalement de croire ce qui ne saute pas du tout aux yeux, c'est-à-dire de croire que dans l'histoire présente, il y a de façon souterraine un projet de salut que Dieu met à l'œuvre, mais vraiment de façon souterraine, c'est-à-dire ça n'est pas perceptible à la surface des événements. Et le prophète qui proclame sa certitude que Dieu est à l'œuvre, il proclame que c'est une heureuse annonce ou une bonne nouvelle. Donc, il annonce que Dieu vient, il annonce que c'est une bonne nouvelle et que Dieu fera du neuf. C'est là que Marc choisit le début de son évangile. Et c'est trois aspects fort intéressants pour nous, comme catéchèse chrétienne, parce que ce que Marc fait avec ce choix, en écrivant son livre sur guillemets, l'événement Jésus, c'est de nous dire ces trois mêmes choses. Donc, effectivement, Dieu vient, sauf que ce qui vient, ce sera Jésus de Nazareth. Effectivement, c'est une bonne nouvelle, et donc c'est une bonne nouvelle de salut encore à l'intérieur de l'événement même Jésus de Nazareth. Et le troisième aspect, je disais, Dieu vient d'une manière dont nous ne l'attendons pas. Ça va être encore plus vrai que ce qu'Isaïe avait prévu. La nouveauté de Dieu chez Isaïe prend tout de même les images du bras vigoureux, il vient avec puissance, victoire, et on va se rendre compte que cette nouveauté-là est vraiment, vraiment étrange en Jésus, puisque la gloire, la force, la puissance, la victoire, eh bien, c'est loin d'être évident. Dans l'aventure de Jésus de Nazareth, c'est surtout pas sous le signe de la victoire que ça va se passer. Donc, Marc utilise cette nouveauté radicale d'Isaïe, qui est promesse de bonne nouvelle, pour introduire l'évangile de Jésus. Du coup, ça nous induit vers un nouveau regard sur cet évangile. Il faut se rappeler aussi que les évangiles sont écrits en grec, alors que les livres des prophètes sont écrits en hébreu. Et habituellement, lorsque les évangiles citent quelque chose du Premier Testament, ils le citent à partir de la traduction grecque du Premier Testament, qui existait déjà, disons, ouais, deux siècles et demi avant Jésus.
C'est ça, quelque chose qu'on appelle la Septante. C'est important qu'entre les personnes qui nous écoutent des fois, là, qui ont, oui, c'est bon de revenir là-dessus. Hein. La Septante, c'est qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que la langue hébraïque n'était tout simplement pas utilisé. Tous ces juifs de la diaspora qui, voilà, étaient dans un univers grec, oui, et on a traduit la Bible de l'hébreu au grec, oui, et la légende dit qu'ils étaient 70 rabbins à faire la traduction, oui, d'où le mot Septante.
Bon, oui, voilà. C'est pratique parce que les gens qui consultent, par exemple, les notes en bas de page de leur Bible, oui, vont parfois rencontrer LXX en majuscule.
LXX,
qui désigne en chiffre romain 70.
Voilà.
Et donc, ça désigne cette traduction grecque dite
Septante. Et que les auteurs du Nouveau Testament ont utiliser la Septante dans, oui, leur citation.
La plupart du temps.
Bon.
Oui. Donc, dans l'hébreu, ce que vous venez de nous lire, c'est une voix crie, préparez dans le désert le chemin du Seigneur. Et donc, le chemin est dans le désert. Mm-hmm. Alors que dans Marc, les gens se sont peut-être rendus compte que c'est un peu différent. C'est une voix crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur.
Il y a une différence.
Il s'agissait, si on se reporte à la présentation que vous nous avez faite du contexte, il s'agissait de revenir d'exil. L'exil est à Babylone. On devra traverser des régions assez désertiques, la Jordanie. Et c'est perçu comme une nouvelle traversée du désert, symbole du nouvel exode, hein, sortie d'Égypte et traversée du désert aussi. Donc, il s'agit bien de préparer un chemin dans le désert. Tandis que quand Marc cite, il cite à partir du grec, et ça lui convient très bien, c'est « une voix crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur ». Donc, le désert n'est pas le lieu du chemin, mais le lieu où la voix proclame. Et là, ça nous permet à nous, comme lecteurs, de faire le lien, bien sûr, avec Jean le Baptiste, de sorte que Marc, en citant Isaïe ainsi, et même il le cite avant de faire entrer Jean-Baptiste en scène, nous prévient déjà, la voix qui crie dans le désert, ce sera Jean le Baptiste. Et du coup, le Seigneur dont il est question, pour le lecteur chrétien, c'est Jésus. Alors que chez Isaïe, ce sont les chemins de Dieu qu'il s'agissait de préparer. Voix qui crie dans le désert.
Préparer le chemin du Seigneur.
Prepare ye the way.
Alors, la pièce de musique que nous venons d'entendre, Claude, qui a peut-être étonné les auditeurs, vient d'un film qui a été fait dans les années 70, qui s'appelait Godspell, une sorte de reprise de l'histoire des évangiles, mais au 20e siècle.
Bien. Francine, nous avons constaté, dès le tout début de l'évangile de Marc, que Marc nomme Isaïe. Mais il va continuer à, enfin, dans son écriture, il y a un mix, là. Il y a un mélange de citations.
Et, oui, parce que tout ce que nous avons dans Isaïe, qui est cité vraiment par Marc, c'est la voix qui crie dans le désert, préparer les chemins du Seigneur. Or, au verset 2 dans Marc, nous avons d'abord, voici, j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer ton chemin. Bon. Et cela vient du prophète Malachie.
Mais est-ce que ça se pourrait que Isaïe était très important comme prophète?
Oui.
Il y a chez Marc comme un souci d'au moins nommer un prophète. Hein? Mais il n'a pas senti besoin de dire, bon, on trouve aussi au livre de l'Exode, puis au livre de Malachie.
Il ne faisait pas une émission pour Radio.
Voilà, c'est ça.
Je dirais plutôt que c'est probablement ce travail de collage ou de patchwork a été fait avant Marc et que lui hérite d'un montage de citations qui est déjà considéré comme pertinent pour la catéchèse chrétienne. Et en fait, ce qui est original chez Marc, c'est l'endroit où il place cette citation et la façon dont il l'utilise. Donc, oui, il y a un peu de Malachie au chapitre 3 et vous allez bien reconnaître, hein, le verset 2 dans Marc, c'était « Voici que j'envoie mon messager devant toi pour préparer ta route ». Malachie 3.1, voici que j'envoie mon messager, il déblaira la route devant moi. Donc, on voit bien que c'est presque pareil à cette petite différence, qui est peut-être une différence énorme, c'est il déblaira la route devant moi dans Malachie. Autrement dit, il s'agit bien de Dieu qui vient et qui envoie son messager. En grec, son agelon. Donc, il envoie Dieu. Dieu envoie quelqu'un devant lui pour préparer son propre chemin, exactement comme dans Isaïe. Très clair encore dans la suite de Malachie, toujours. Et au verset 5 de ce même chapitre 3 de Malachie, « Je m'approcherai de vous pour le jugement. » Donc, on voit bien qu'il s'agit de Dieu. Et encore à la fin de ce chapitre, « Voici, je vais vous envoyer Élie le prophète avant que ne vienne le jour du Seigneur. » Toujours, donc, il s'agit de la venue de Dieu. Donc, le collage que l'on trouve chez Marc, de ces deux versets, un de Malachie, et un d'Isaïe, et la reformulation qu'on a aussi a un double résultat, je dirais, en plaçant ça à cet endroit. Ça veut dire que tout devient organisé pour qu'on comprenne que les messagers dont il est question, c'est Jean le Baptiste et c'est Dieu qui l'envoie, et que c'est toujours pour préparer la venue de quelqu'un d'autre qui n'est pas Dieu, mais Jésus. Et là, on a vraiment une relecture chrétienne. Ça veut dire que Jean le Baptiste, et avant même de son entrée en scène, est déjà désigné comme étant un personnage tourné vers un autre personnage. Il n'est pas là pour lui-même. Son rôle est déjà défini avant même qu'il arrive dans le récit. Il est tourné entièrement comme personnage vers l'autre personnage qui vient après lui. C'est tout à fait le regard chrétien sur Jean le Baptiste, bien sûr. Deuxième effet, produit par l'insertion de la citation à cet endroit de l'Évangile, ça fait que Jésus est présenté comme celui qui vient. Hein. Il occupe dans le récit la place que Dieu occupe dans les textes cités. C'est très audacieux. On est trop habitué à cette idée-là. On ne prend pas bien la mesure de cette audace de la foi chrétienne qui reconnaît en cet homme de Nazareth la présence mystérieuse de Dieu. Hein. En prenant des textes qui annoncent la venue de Dieu, et les faire servir pour annoncer la venue de Jésus de Nazareth. Si on s'intéressait d'un peu plus près au personnage historique de Jean le Baptiste, on pourrait dire que lui annonçait plutôt la venue prochaine du jugement, c'est-à-dire de Dieu, ou plus vraisemblablement la venue du Messie, associé à l'avenue du règne de Dieu. C'est ce qu'on entend bien dans sa prédication. « Voici venir derrière moi celui qui est plus puissant que moi. » Ça pourrait très bien désigner le Messie sans que Jean, le Jean historique, sache qu'il s'agit de cet homme, Jésus de Nazareth. On a ici, en passant, un des rares textes, cette déclaration de Jean le Baptiste, un des rares textes qui est commun à Matthieu, Marc, Luc, d'une part, et à l'évangéliste Jean, d'autre part.
Là, vous parlez du « Voici venir derrière moi, celui qui est plus puissant que moi ».
Oui, puis la sandale qui n'est pas digne de dénouer. C'est un texte qu'on trouve aussi dans l'évangile de Jean et qui nous reviendra justement dans une semaine, c'est-à-dire qui se trouve à être le troisième dimanche de l'Avent. Et ça nous permettra de commenter à ce moment-là avec un peu plus de précision et de développement, je dirais, ces relations entre Jésus et Jean le Baptiste, telles qu'elles sont objets de réflexion dans la communauté chrétienne. On pourrait observer que chez Marc, toute la prédication de Jean-Baptiste concerne celui qui vient. Il n'y a aucune exhortation morale dans le discours de Jean le Baptiste, contrairement à chez Matthieu et Luc. Chez Marc, finalement, il ne s'agit pas tant d'inviter les gens à une meilleure conduite. L'appel au baptême de conversion, c'est simplement une décision personnelle à prendre où chacun est invité à se situer devant la nouveauté qui vient. Pour Marc, cette nouveauté-là, ça sera Jésus. Et se situer en vérité devant Dieu, c'est-à-dire confesser les péchés. Peut-être quelques mots sur le rite du baptême. Évidemment, il ne s'agit pas du baptême chrétien. C'est un acte qui permettait aux gens de signifier concrètement leur désir de conversion. Et c'est un rite qui ne semble pas être renouvelable. Et dans ce sens-là, ça s'oppose aux nombreux rites de purification avec de l'eau, qui étaient très développés, entre autres, dans la spiritualité pharisienne et plus encore à Qumran. Donc, des rites qui permettent de marquer qu'on passe du profane au sacré, par exemple, des rites de purification. Et ici, chez Jean, donc, on se plonge dans l'eau une seule fois et c'est orienté plutôt donc vers le positionnement intérieur face à Dieu. On peut dire aussi que c'est un baptême associé au thème du pardon, ce qui est tout à fait étonnant dans le contexte où on avait déjà à cette époque la liturgie du Yom Kippour. Donc, c'était le privilège du grand prêtre, une fois par année, de demander à Dieu le pardon pour les fautes du peuple. Quand je dis privilège, c'est une manière de parler. Et donc, on voit que Jean le Baptiste se situait en marge des grands courants religieux de son époque, que ce soit la pratique officielle du temple ou les pratiques rituelles de purification. Et dans cette marge-là où Jean le Baptiste s'est situé, il a obtenu un succès certain que reflètent nos évangiles. Et ici, Marc, tout le pays de Judée, bon, c'est des généralisations bien sûr, mais tout le pays de Judée, tous les habitants de Jérusalem venaient à lui. C'est visuellement très saisissant, on s'imagine tout le monde à l'eau. Comme si il y avait une sorte de nouvelle alliance, de nouvelle traversée de la mer Rouge, vraiment une espèce de désir de tout le peuple de se tourner vers Dieu. On pourrait dire de répondre à l'appel de Jean, de préparer les chemins du Seigneur en eux.
Alors nous aurons l'occasion, Francine Robert, de continuer à réfléchir, à approfondir le personnage de Jean-Baptiste, qu'on retrouve aussi dans les autres évangiles. Et c'est l'occasion de rappeler que mercredi prochain, bien, nous, comme je le disais, nous continuerons avec le personnage de Jean-Baptiste, cette fois-ci tel qu'il sera traité par l'évangéliste Jean. Alors, vous êtes à l'écoute de l'émission Parole au présent. C'était Francine Robert de l'Institut de Pastoral qui était mon invité ce soir. C'est Claude Julien qui vous souhaite une très bonne soirée. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain à la même heure.